Bonjour et bienvenue sur Parlons PMA, votre ressource autour du parcours de procréation médicalement assistée. Je suis Lisa Journiac et j'accompagne les femmes, les couples pendant leur parcours de PMA. Grâce à mon expérience dans ce domaine et mes compétences en coaching, j'ai pour mission de vous aider à mieux vivre vos essais bébés. Chaque semaine, je vous propose des informations et des conseils à travers de témoignages de personnes ayant vécu ce parcours, d'interviews d'experts en fertilité et enfin d'outils et réflexions que j'utilise durant mes accompagnements. Si tout cela vous intéresse, alors bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline, maman d'une petite fille grâce à un parcours de PMA. Bonjour Pauline, comment vas-tu ?
Bonjour Lisa, ça va bien, merci.
Écoute, déjà je te remercie d'avoir accepté mon invitation donc, sur Parlons PMA. Et donc aujourd'hui, on est là pour que tu nous racontes un petit peu ton histoire, ton parcours de FIV, parce que probablement ça pourra aider d'autres personnes qui doivent se lancer en parcours ou sont déjà en parcours, sachant que on dévoile le secret avant la fin, mais que tu es maman maintenant d'une petite fille. Si tu veux bien un petit peu nous parler de ton parcours, comment ça s'est passé, des différentes étapes pour commencer.
Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Lisa. C'est avec plaisir si je peux aider d'autres personnes. Donc pour nous, parcours, on est rentré en PMA en avril 2020, donc en pleine période de confinement. Donc suite à, on était à 3 ans d'essai, je crois, ou 2 ans et demi d'essai, et une infertilité inexpliquée. Donc du coup, dans un premier temps, nous avions vu avec notre gynécologue de tenter les IAC en attendant que la situation du Covid se débloque, vu que on n'était pas prioritaire pour les FIV. Du coup, on a lancé une première IAC en juin qui s'est avérée positive, mais au final, c'était une grossesse extra-utérine. Donc, suite à ça, vu que j'ai dû être opérée, on m'a tout de suite dit FIV, vu qu'il y avait un risque de refaire une grossesse extra-utérine. Donc, on est repassé en FIV, du coup, au mois de novembre 2020. On a enchaîné assez rapidement. Après, c'était ma gynécologue a été très à l'écoute. Moi, j'avais pas envie de perdre de temps. J'avais peur de l'âge des 35 ans, mais j'arrivais sur mes 34. Mais je viens d'avoir 36, donc c'est ça. Du coup, on a enchaîné tout de suite sur une première FIV. Donc la première FIV, le résultat n'était pas très bon. J'ai que 6 ovocytes sur la première ponction. Donc on a eu un embryon qui a été transféré, qui s'est avéré un échec. Donc on est reparti après sur une deuxième FIV en février 2021. On a changé de protocole. Donc on a changé de traitement, et là j'ai eu 18 ovocytes à la ponction, donc on a fait x3 par rapport à la FIV 1, donc rien à voir. Là on a eu 6 embryons, c'était vraiment super, on a eu 5 embryons à J5 et 1 J6, donc on a fait x6 par rapport à la FIV 1. Et là on a le premier transfert, donc on a eu un transfert frais. Parce que j'ai frôlé l'hypersimulation, mais j'y étais pas, donc on a pu faire un transfert frais. J'ai fait une grossesse biochimique, donc un début d'accroche, et après ça s'est tout de suite évacué. Et on a pu refaire un transfert sur le cycle suivant. Donc dès mars, on a retenté sur un transfert pour faire un TEC, du coup, sur un cycle substitué. Donc du coup, j'avais un traitement, j'avais une prise du coup de progestérone pour stimuler, enfin pour simuler en fait l'ovulation, et j'ai eu mon transfert à J5 du coup, de mon J5, et qui a donné ma petite fille qui est née le 28 décembre 2021. D'accord. Voilà. Donc en tout, on a fait 4 ans pour on a mis 4 ans pour avoir notre fille, dont un nom de PMA
D'accord.
et 4 protocoles.
D'accord. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, finalement, vous avez essayé en conception naturelle pendant un moment, ça ne fonctionnait pas. Il y a eu l'insémination et surtout ce que je trouve intéressant parce que je vois quand je suis des personnes qui sont en parcours de PMA, quand on fait une première FIV et on a pas beaucoup d'ovocytes, pas beaucoup d'embryons, un premier échec, ça peut être démotivant. Et dans ton cas, on voit bien que c'est un cycle de FIV et c'est pas parce que le premier cycle n'a pas été très bon que c'est pas possible d'avoir un bon cycle par la suite avec plus d'ovocytes aussi. Donc, je trouve que c'est super encourageant parce que c'est vrai que je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais après le premier cycle, quand tu as eu 6 ovocytes, un embryon, comment tu t'es senti?
C'était la cata parce qu'en fait,
Ouais.
quand on sait les résultats, enfin, la probabilité qu'une IAC fonctionne au premier coup elle est très basse. Donc, moi, je me suis dit, si la première IAC fonctionne, la première FIV, ça va être les bananes, quoi. Enfin, c'est une formalité, on a fait fertilité inexpliquée, on avait juste besoin d'un coup de pouce.
Ouais.
Là, on a les embryons, enfin, du coup, on n'en avait qu'un seul. Mais je me suis dit, il n'y a pas de raison, enfin, ça va fonctionner rapidement. Et quand déjà la première FIV, j'ai compris que déjà la ponction n'était pas sûre, ça m'a foutu un coup.
Ouais.
Après, ma gynécologue m'avait dit qu'on ferait peut-être un transfert précoce vu que j'avais peu d'ovocytes. Quand le biologiste m'a appelé en me disant que les J3 étaient de trop mauvaise qualité pour faire un transfert précoce, là, je me suis repris une deuxième claque. Donc au
Ouais.
final, j'étais quand même contente d'avoir pu faire un transfert sur cette FIV. Mais c'est vrai que je me suis pris, je pensais que ça allait être plus simple vu que les taux de réussite d'une IAC, enfin, au final, ça a échoué, mais ça s'était quand même formé. Enfin, j'ai quand même eu un test de grossesse positif, c'était la première fois. Donc, je pensais, et mon conjoint aussi, que ça allait être assez simple.
Ouais.
Et enfin, pas du tout. Mais du coup, ma gynécologue a été vraiment très à l'écoute et elle-même, elle m'a dit, vu mais enfin, elle me dit, vous avez une bonne réserve ovarienne, il n'y a pas de raison, vous n'avez pas assez bien réagi au premier traitement, il faut qu'on change ça, il faut viser au moins 10 ovocytes. Donc, c'est vrai que j'étais assez prise dans l'optimisme en fait de ma gynécologue.
Ouais.
Et voilà, je me suis dit, allez, on y va. C'est vrai qu'au final, quand j'y repense, j'ai quand même fait 3 anesthésies générales en 9 mois. C'est quand même pas rien. Mais ouais, j'avais envie de. Ouais, je me suis laissée porter, en fait. Et j'ai fait confiance à ma gynécologue qui était vraiment à l'écoute.
Ouais.
Donc je pense que ça nous a bien
Ouais,
aidés.
ça c'est important, c'est vrai, d'avoir cette relation aussi avec son médecin. Souvent, ça aide parce que c'est vrai que c'est un parcours qui n'est pas facile. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une gynécologue qui soit dans l'optimisme, qui soit à l'écoute, je pense que ça aide beaucoup en tant que femme, en tant que couple aussi, à avancer dans ce parcours. Et est-ce que peut-être tu pourrais expliquer en quelques mots comment ça se passe, en fait, un cycle de FIV, pour les personnes qui vont se lancer, pour qui c'est la première fois, quelles sont les différentes étapes?
Alors la première étape, donc une fois qu'on a fait tous les examens, que le dossier est prêt, au début de mes règles, j'appelais mon médecin. Je commençais du coup le traitement, donc après ça dépendait. Donc souvent c'est une phase de prise de médicaments et de piqûres, avec ensuite contrôle fréquent pour voir comment on réagit au traitement. Donc du coup des échographies pour voir si le nombre enfin les follicules, pour voir si ils grossissent bien et
Ouais,
autres.
combien il y en a, comment ils
Et là
grossissent.
aussi de. C'est ça. Et s'il y a besoin d'adapter ou pas. Parce que du coup, la première fille, vu que je réagissais pas assez, du coup, on avait augmenté le traitement en cours de protocole. Donc ça, souvent, j'avais 3 contrôles d'échographie. Souvent 3 contrôles. À chaque contrôle d'échographie, il fallait faire aussi une prise de sang pour regarder où on en était au niveau des hormones, pour voir comment on réagissait autre. Une fois que la gynécologue trouve que là c'est bon, enfin les follicules sont assez matures, donc du coup on déclenche l'ovulation. Donc là, il y a une heure précise à respecter pour le déclenchement. Et ensuite, ensuite on va souvent, donc c'est un jour et demi après à peu près,
Ouais, c'est 36.
pour 36 heures. Ouais. Ah bah ça fait un jour et demi. Pour aller après à la ponction. Donc le matin, mon conjoint allait faire le recueil. Et moi, du coup, je me préparais. Donc moi, c'était des ponctions sous anesthésie générale. Il n'y avait pas de local proposé. Enfin, je n'ai pas posé la question. Puis moi, je suis un peu phobique des piqûres et autres. Donc je préfère pas voir ce qui se passe.
Ouais.
Comme ça, au moins. Enfin, voilà, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est piqûres, hospitalisation, tout ça. Et du coup, une fois qu'il y a la ponction qui est faite, donc après, on a le résultat assez, enfin, dans la journée. Enfin, même au réveil, j'avais le nombre de follicules qui avaient été ponctionnés. Et le lendemain, après, moi, j'avais les appels donc à J1 pour savoir le nombre d'ovocytes fécondés. J'avais un point J3. Et j'avais ensuite un point J5. Et donc là, et confirmation ou pas de transfert.
D'accord, ouais.
Et donc, une fois qu'il y a le transfert, le transfert, c'est très rapide. Hein, ça dure 5 minutes à tout casser, on va dire. Et ensuite, dans mon centre, il fallait attendre 12 jours pour faire la prise de sang, même avec un J5.
D'accord.
Donc, du coup, au bout de 12 jours, on fait la prise de sang. Donc, moi, souvent, j'avais mes règles qui arrivaient avant. Enfin, dans les 3 cas. Dans l'IAC et les deux premières FIV, enfin deux premiers transferts, j'avais. Donc souvent, ce que je faisais, c'est que j'appelais mon médecin en disant bah, j'ai mes règles. Et bah, 2 fois sur 3, j'avais quand même un test positif. Hein. C'est là qu'il y a un problème. Hein. Quand on a des règles et qu'on a un test positif, on se dit que c'est pas normal. Mais du coup, la troisième fois, j'avais pas mes règles à J12. Et donc, quand j'ai fait la prise de sang, et bah, elle était positive et avec un très bon taux. Et une fois que le taux est positif, moi, dans mon centre, c'est comme ça qu'ils font. Il y a un contrôle, il y a 3 prises de sang, il y a des contrôles tous les 2 jours pour voir si le taux il augmente bien.
Et
Et
d'ailleurs,
voilà.
le transfert pour voilà, les personnes qui n'en ont jamais fait, comment ça se passe exactement? C'est
On
pas
arrive dans une salle.
douloureux, il n'y a pas d'anesthésie, voilà.
Non, 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 on arrive dans une petite salle. On fait d'abord, du coup, il y a le biologiste qui est comme une sorte de passe-plat, en fait, on va dire. Et le biologiste déjà vérifie l'identité de tout le monde. Pour la FIV1, on a eu la chance de voir parce qu'on avait pris l'embryoscope comme option, enfin, pour la FIV2 aussi. Et pour la FIV1, on a eu la chance de voir l'évolution de notre embryon. Donc, ça, c'était très émouvant. On a vu vraiment les 5 jours de notre embryon, au final qui n'a pas tenu, mais quand même. Et ensuite, du coup, on se pose en position gynécologique et puis c'est dans une pipette en fait. Pour moi, c'est pas moi, j'ai jamais senti de douleur. Si la dernière fois, j'ai senti parce que j'avais pas la vessie pleine et du coup, elle avait eu un peu de mal à passer le col de l'utérus. Mais au final, non, ça dure 5 minutes. Après, elle contrôle que l'embryon a bien été déposé et puis voilà.
D'accord. J'en profite.
Et dans mon centre, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pause à faire, il n'y a rien. On repart après comme si rien n'était.
D'accord. J'en profite simplement pour refaire un petit point parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est un embryoscope. En fait, un embryoscope, c'est un incubateur dans lequel sont déposés les embryons. Et en fait, ils vont être filmés 24 heures sur 24 tout au long du développement des embryons, ce qui permet d'éviter que les biologistes sortent les embryons, qu'il y ait des changements de température, de lumière. Et c'est vrai que c'est bénéfique aussi pour les embryons. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un embryoscope. On entend aussi le nom de time-lapse. En fait, c'est le nom d'usage et embryoscope. Et il y en a un autre qui s'appelle Guéris. Ce sont des noms de marque. Voilà, si jamais vous avez l'occasion d'entendre ces termes. Là, parce que c'est vrai que je sais pas si en France tous les centres sont équipés encore, mais je sais qu'en Espagne tous les centres
Nous,
ont
c'était
un peu moins
Toulouse.
d'embryoscopes, mais
À Nantes, au centre où on était suivi à Nantes, c'était tout nouveau. Du coup, pour la FIV 1, ça faisait 6 mois, je crois, qu'il l'avait. Et nous, on s'est dit qu'on avait peu d'ovocytes. On s'est dit, on ne va pas les stresser, on va les garder au chaud. Et
ouais.
vu qu'on l'avait fait pour la FIV 1, on s'est dit, bon, on va le faire aussi pour la FIV 2, à savoir que ce sont des options en plus et ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
Ouais. Ouais, parce que
Mais
c'est vrai
pour
que c'est des
ça, c'est
machines.
à
très cher. Donc, c'est vrai que je crois que dans les centres, c'est pas pris en charge. Effectivement, c'est des options en plus, hein. Que ce soit en France, en Espagne. Je ne sais plus combien ça coûte, mais c'est quand même assez un gros budget. C'est pour ça que d'ailleurs, tous les centres, dès le début, ne pouvaient pas forcément s'équiper, parce que, enfin, au niveau du labo, c'est un gros budget supplémentaire pour eux, je crois.
Ouais. Mais nous, on s'était dit, on va donner toutes les chances et on avait pris, enfin, fait le choix de le prendre.
Ouais. Bon, finalement, c'était une bonne décision. Il n'y avait pas beaucoup d'embryons, mais ça a été efficace.
Oui, pour la deuxième FIV, ouais, ça a été bien efficace. On l'avait pris aussi pour la deuxième FIV. Mais par contre, on n'a pas pu voir l'évolution. Je pense peut-être parce qu'on avait plus d'embryons. Peut-être que pour la FIV 20, vu qu'on n'avait qu'un,
Ouais.
c'était facile de montrer
Ouais, et puis
l'évolution.
parfois peut-être pour des questions d'organisation ou autre, ils n'ont pas pu. Mais normalement, je pense qu'ils gardent les vidéos, donc peut-être que même vous pouvez la redemander, je ne sais pas. À voir. Moi, ce que je voulais te demander aussi, c'est bah, finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans ce parcours, ou pour vous aussi, pour ton conjoint, parce que c'est quelque chose qui se fait à deux dans votre cas.
Ce qui était plus difficile pour moi, c'est de l'incertitude en fait, de pas savoir si un jour ça va fonctionner, de pas savoir si un jour je vais être maman en fait. C'est ça. Quand on n'est pas parent, de se dire aussi bien je serai jamais maman, je vais jamais permettre à mon conjoint d'être papa. Moi, j'avais une grosse remise en question par rapport à mon corps en fait, où je me suis dit des accroches, ça va pas au bon endroit. Parce que même pour ma fille, j'ai eu un gros décollement au début de la grossesse. Donc, je me suis dit, on a frôlé l'arrêt de grossesse, parce qu'on était quand même, on avait un gros hématome. Donc, une grosse remise en question sur le corps, sur ouais, la perte de confiance du coup, en soi et dans son corps. Le fait de ne pas savoir si un jour ça va aboutir, ça, c'est le plus difficile. Parce que si on sait qu'un jour ça fonctionne, bah, au moins, on se dit, bah, on ne fait pas ça pour rien, quoi. Et pour mon conjoint, je pense aussi que c'est ce qui n'était pas facile, c'est le soutien. Parce que du coup, c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus spectateurs. Et du coup, nous, on supporte beaucoup, déjà rien que les hospitalisations, puis les traitements et les émotions. Non, c'est vrai que lui, il était à rester... Bah, droit, et puis enfin d'être présent pour moi, enfin surtout après la grossesse extra-utérine où j'étais opérée en urgence. Bah, je pense que oui, lui il avait aussi se mettait une pression supplémentaire pour être présent pour moi, et du coup lors de la grossesse qui enfin suite à qui a donné du coup la naissance de notre fille, il a mis beaucoup de temps aussi à on était très très prudents en fait. Mais voilà, je pense que c'est ça les plus grosses difficultés qu'on a rencontrées.
Ouais, c'est sûr
Plus
qu'il
que le
faut.
traitement, au final, un traitement, ça se subit, enfin, ça se prend, c'est pas trop gênant, mais c'est l'incertitude.
Ouais, c'est vrai que l'incertitude, je pense que c'est vraiment une des grosses problématiques du parcours. C'est de bah, on sait souvent, on entend cette phrase, hein, on sait comment quand ça commence, mais pas comment quand ça va se terminer. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer, parce que il faut se dire bah, que continue les essais, pas se décourager. Comme tu disais, enfin, quand tu as une première FIV qui est pas avec. Non plus avec un embryon, pas beaucoup d'ovocytes, ce qui d'ailleurs ne veut rien dire, parce qu'on peut avoir peu d'ovocytes et qu'ils soient de bonne qualité et que ça fonctionne tout de suite, hein, mais c'est vrai que bah, ça crée cette incertitude. On se dit, bon, bah, la FIV 1 est terminée, il faut recommencer, combien est-ce que je vais devoir en faire pour que ça fonctionne, etc. Et c'est vrai que bah, ça peut être décourageant. C'est vrai que bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie bah, que tu partages ton témoignage aussi, parce que c'est vrai que bah, c'est important aussi bah, d'avoir le retour de personnes qui sont passées par là et bah, pour qui ça a fonctionné, et pas se décourager malgré bah, toute cette incertitude aussi. Et d'ailleurs, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses voilà, que tu aurais aimé savoir avant de commencer ce parcours de PMA?
Bah, j'aurais aimé savoir être plus accompagnée sur le fait qu'une FIV, ça garantit pas forcément de bons résultats tout de suite. Parce que moi, c'est vrai que je me suis tombée de haut. Je me suis dit, l'IAC, ça a fonctionné. Enfin, ça a pris. Bah, la FIV, c'est une formalité. Et en fait, non. Et sinon, après, j'avais déjà eu des amis, moi, qui avaient fait des parcours de PMA. J'ai même des amis de mes parents qui ont fait de la PMA. Donc, j'ai été très tôt, en fait, sensibilisée à ces problématiques-là. Mais après, c'est vrai qu'on s'y prépare jamais trop, hein. C'est vraiment un tsunami au niveau des émotions. Et ça, je pense que d'être alertée, ça aurait été pas mal. Surtout, je suis déjà quelqu'un de très sensible et très émotive. La gestion des émotions, c'est pas simple.
Ouais. Oui, et puis en plus, bon, déjà, les
Mais voilà.
émotions dans temps normal, il se passe plein de choses. Et ce que tu dis, c'est que si tu es déjà sensible, les hormones, ça a tendance à pas arranger aussi. Et c'est vrai que des fois, parfois, les médecins, ils pensent pas à le dire parce que peut-être que c'est leur quotidien, etc. Mais quand tu es en traitement de stimulation, il faut penser aussi que bah, tu es sous traitement hormonal. Donc les émotions aussi, elles sont accentuées. Et ça aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez.
Oui, et moi j'étais accompagnée parce que dans le centre où j'étais suivie, dans cette clinique-là, après tout arrêt de grossesse, ils proposent un suivi psychologique.
Ah, super.
Donc du coup, même hors PMA en fait. Donc du coup, moi j'étais suivie par une psychologue de la clinique suite à ma grossesse extra-utérine. J'avais demandé et du coup, c'est vrai que ça m'a aussi apporté un support. Pendant mon parcours de PMA, parce que du coup, j'avais aussi cette aide qui me permettait de gérer un peu mieux mes émotions, d'avoir un regard extérieur et un accompagnement. Donc ça m'avait bien aidé aussi. Enfin, c'est vrai que c'était un plus
Ouais.
dans la gestion des émotions et d'avoir aussi quelqu'un qui me permettait de relativiser par rapport à la culpabilité, justement, sur mon corps. Enfin, là-dessus, ça m'avait bien aidé.
Ouais, parce que c'est vrai que la culpabilité, c'est une émotion qui revient souvent dans le parcours de PMA et en tant que femme, on se flagelle un peu sur le parcours, la culpabilité, pourquoi ça marche pas, est-ce que je fais mal. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent que c'est vrai que le fait de pouvoir en parler avec quelqu'un, de se faire accompagner, ça permet un petit peu quand même d'enlever un poids des épaules et puis d'avancer plus sereinement. Enfin, je pense, hein, je ne veux pas parler pour toi, mais.
Si, si, clairement, moi je me mettais une pression de folle en fait. Après la grossesse extra-utérine, je me mettais une pression en mode faut que je fasse plus de sport, faut que j'arrête de boire du thé, faut que j'arrête de. Enfin, je voulais tout arrêter parce que c'était à cause de mon corps, qu'il fallait que j'aie un meilleur corps, une vie plus saine. Et là, j'ai mes médecins qui m'ont dit eh, stop, quoi, vous avez le droit d'aller, si vous voulez prendre un apéro ou un sort, vous avez le droit de prendre un apéro, quoi, faut arrêter.
Oui, c'est
Mais je
ça.
me mettais une telle pression en fait, que ça en devenait mais maladif quoi. Enfin, faut aussi réussir à, ce qui n'est pas tout simple, mais à profiter et à vivre, parce que sinon bah on vit plus quoi. Enfin, si on est que sur les traitements, après la vie de couple en plus elle prend un sacré coup. Enfin, la vie aussi extérieure, moi j'avais tendance à me couper tout le monde, je voulais voir plus personne, enfin, ce qui n'est pas trop dans mon tempérament, mais donc c'est vrai que je pense que l'accompagnement psychologique moi m'a beaucoup fait de bien.
Oui, non, mais c'est vrai que bon, moi,
Donc
c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je pense que le parcours de
oui.
PMA, c'est un parcours qui est compliqué. Comme tu disais, on n'est jamais préparé, en fait, hein, à toutes ces choses-là, à ce qui peut se passer. Et si, enfin, tant que tu l'as pas vécu, que tu n'as pas vécu ça de près, tu peux pas vraiment, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas toi comment on va y réagir, quel impact ça peut avoir. Sur ta vie en fait de manière générale et tu vois tu parles de ça tu te mettais la pression t'es, en fait c'est d'essayer d'avoir le contrôle sur tout et c'est vrai moi je le vois dans mon accompagnement j'ai des femmes toujours qui me demandent mais qu'est-ce que je peux faire en plus qu'est-ce que je peux faire en plus qu'est-ce que je peux faire en plus mais en fait c'est des fois c'est juste bah, de se laisser vivre en fait qu'il y a un protocole effectivement il y a des petites choses qu'on peut mettre en place mais à un moment donné pour son bien-être mental se mettre la pression à vouloir tout faire bien, finalement, ça peut avoir l'effet inverse. Donc, c'est vrai que c'est toute cette partie accompagnement, je pense qu'elle est nécessaire.
Et après, dans les accompagnements, en plus, il y a vraiment tout type d'accompagnement. Il y a les psychologues, moi, j'ai fait en tant que coaching fertilité, il y a des hypnothérapeutes, voilà, il y a aussi des acupuncteurs. Enfin, il y a plein de spécialistes autour de ça qui peuvent aider sur la partie émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui restent. Je parle surtout des femmes parce que c'est vrai que les messieurs, on les voit moins. Mais qui restent un peu seules, du coup, qui n'ont pas forcément des personnes aussi avec qui en parler, et puis qui ne se rendent pas compte de la pression qu'elles se mettent aussi. Et c'est vrai que ce type d'accompagnement, je pense que c'est un bien fou. Et c'est vrai que nous, quand on a eu l'occasion d'échanger, c'est vrai que ça se voyait que tu étais beaucoup plus sereine d'avoir pu échanger avec quelqu'un, avec la psychologue qui t'accompagnait dans le centre où tu étais, et pour affronter la suite aussi. Donc, je pense que tu t'es sentie plus légère sur la FIV2, je ne sais pas, mais...
Oui, sur la FIV2, nettement mieux, ouais. Déjà aussi, j'ai eu, eu besoin de digérer le premier échec. Et en fait, je me demandais si j'ai pas voulu trop enchaîner trop vite. Et du coup, j'ai fait un gros travail. Enfin, je me suis vraiment coupée en fin d'année. J'ai dit à mes amis, je veux voir. Enfin, voilà, mes amis m'ont compris. J'ai dit, je coupe. J'avais tout couper les réseaux, enfin tout. J'ai besoin de me recentrer sur moi
Oui.
et de me reconstruire. Et puis c'est vrai que du coup, la psychologue m'a bien aidée. Et du coup, j'ai abordé la deuxième fille beaucoup plus, avec moins de pression déjà.
Ouais, ce qui est quand même.
J'avais plus digéré déjà le premier échec. Et donc, du coup, je me suis peut-être mise moins la pression. Et oui, puis j'ai été bien encadrée aussi par ma gynécologue qui était très, très positive. Et donc, voilà, c'était mieux. Puis les résultats ont été tellement positifs qu'on était, je pense qu'on était sur une nouvelle vague, quoi. On était, tout est possible maintenant. On a une bonne récolte, on a plus d'embryons, plus de chances. Et puis, voilà, premier transfert, grossesse biochimique. Donc déjà, c'était, bon, il y a quand même une accroche. Et deuxième grossesse, bébé. Enfin, deuxième grossesse. Deuxième transfert.
Ah, c'était ta petite fille, votre petite fille qui est arrivée. Pour terminer, j'avais envie de te demander un petit peu, toi qui as vécu ce parcours de PMA, quel conseil tu aimerais donner aux femmes, aux couples qui vont se lancer dans le parcours ou qui sont encore en parcours hein.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de faire confiance au corps médical. Enfin, si on arrive à trouver vraiment des professionnels, on se sent écouté, ça c'est important. Mais c'est vrai que moi, j'étais très en détachement, complètement en confiance avec ma gynécologue. Donc, j'avais cette chance d'avoir une gynécologue vraiment à l'écoute. Et du coup, ça m'a permis de pas être trop dans le contrôle. Sinon, je trouve ça, enfin, c'est vrai que j'ai jamais eu les notations des embryons et tous ces trucs-là. Enfin, je me suis dit à un moment donné, c'est son métier, elle a changé de traitement, ça a bien fonctionné, je lui fais confiance. Donc moi, je pense que ça m'a permis de m'enlever un peu un poids. Donc ça, après, je sais que tout le monde réagit différemment. Mais moi, ça m'a bien aidé d'être en confiance et avec le corps médical et de leur laisser gérer leur partie et de moi me concentrer sur moi. Voilà, enfin pour pas trop se mettre la pression. Et ça, je pense que c'est ça. Enfin, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais c'est important d'essayer de continuer de profiter un peu des petits moments. Donc nous, je sais que pour le deuxième transfert, on a accueilli notre petit chien. On s'est dit, c'est vrai que souvent on a tendance à trop se mettre de frein, de ah non, si jamais j'ai une grossesse, si jamais si. Puis à un moment donné, j'ai mon conjoint qui voulait un chien depuis longtemps. On a eu de l'opportunité, on a pris le chien. La petite anecdote sympa, c'est qu'on a accueilli notre chien le lendemain du transfert d'Agathe. Donc du coup, on a eu la joie d'accueillir un chiot et un embryon qui est resté au chaud en même temps. Mais du coup, de continuer de faire des projets, enfin, je trouve ça important parce qu'on a tendance à s'oublier, de penser qu'au protocole. Et du coup, c'est pas simple pour soi, c'est pas simple pour le couple. Et après, on essaye de continuer de faire des projets, en fait. Et que s'il y a une grossesse qui arrive, c'est que mieux, quoi. Enfin, on trouvera quand même à s'adapter et à faire autrement.
Ouais, c'est ça. Bah, je crois que c'est quand même deux super conseils que tu viens de donner. C'est enfin, faire confiance au corps médical, parce que c'est vrai que si on n'a pas confiance en son médecin, c'est compliqué. Parce que, alors, il y a une question aussi de vouloir avoir le contrôle, mais en fait, c'est ça, c'est une des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc, comme tu dis, c'est de se focaliser sur les choses que toi, sur lesquelles tu as le contrôle, c'est-à-dire bah, plus sur toi que sur la partie médicale. Bah, c'est à eux de gérer, c'est eux les professionnels. Peut-être ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ça, c'est que bah, si vous n'êtes pas bien avec votre professionnel, changez. Parce que si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas bien vivre votre parcours, ça va être compliqué, vous allez mettre tout en question. C'est comme voilà, tu parlais de classification des embryons, etc. Enfin, je veux dire, c'est leur métier. Ils savent ce qu'ils peuvent tenter, comment ils peuvent le tenter, etc. Donc, il y a ça. Et le deuxième conseil que tu donnes, c'est bah, en fait, de continuer à vivre et faire des projets. Et je pense que ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont en parcours de PMA ont peut tendance à mettre leur vie en stand-by. Et c'est là que bah, psychologiquement, ça devient compliqué parce que on arrête de vivre. C'est que la PMA, on s'interdit certaines choses dans le peut-être et si, etc. Et je crois que tu l'as bien dit. En fait, une fois que bébé est là, qu'on est enceinte, et bah, on s'adapte en fait. Et ça, c'est vrai qu'on soit en parcours de PMA ou pas en parcours de PMA d'ailleurs, de manière générale. Parce que bah, comme pour relier ça à l'incertitude, finalement, on ne sait pas. Donc, ne pas s'arrêter de vivre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et puis, on est des humains, on a une capacité d'adaptation qui est assez exceptionnelle. Donc, bah, je pense que ça sera un beau mot pour conclure hein, cet épisode. C'est que bah, ne pas oublier de vivre pendant son parcours de PMA, même si c'est quelque chose bah, voilà, qui n'est pas facile. Mais il y a plein d'autres choses autour de la PMA qui sont importantes bah, pour se préserver, pour préserver son couple. Bébé arrivera au milieu de tous ces projets et ça se gère.
Tout à fait. En tout cas, c'est ce que je souhaite, d'avoir un beau projet qui, enfin, un protocole qui arrive, un protocole gagnant,
Ouais, c'est
très
ça,
vite.
un protocole gagnant. C'est ce qu'on souhaite bah, voilà, toutes les femmes, les couples qui sont en parcours et qui vont commencer. Et puis, bah, merci beaucoup, Pauline, pour ton témoignage, parce que je pense que vraiment, c'était super clair et je pense que bah, ça va aider beaucoup de personnes. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.
Merci Lisa, avec plaisir.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager si celui-ci vous a plu et à me retrouver sur mon compte Instagram, Lisa Journia Coaching, pour échanger. À bientôt!